Quand je fais sonner un son, je sais que ça se passe dans une cuisine ou dans une salle de bain, selon les réverbérations qui reviennent. Si je fais tomber une fourchette dans une cuisine, c'est pas pareil que dans une salle à manger ou dans une chambre à coucher. Et donc il y a un lien, si vous voulez, entre l'élément et l'acoustique du lieu. Ne pas faire apparaître l'acoustique, c'est-à-dire enregistrer dans un lieu complètement absorbant, un peu comme ici, où là on est relativement absorbant, eh bien ça ramène une dimension de nulle part qui arrive avec ce son. Ce son n'est pas inscrit dans un espace social. Donc finalement, tous les sons que l'on enregistre tout le temps s'inscrivent dans des espaces sociaux. Et quand on enregistre un son, on enregistre à la fois un objet, mais aussi un espace. Mais plus que ça, on enregistre aussi un geste. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce que j'entends dans la chute de la fourchette, c'est soit qu'elle tombe toute seule, soit que quelqu'un l'a jetée. Et ce que j'entends avant d'entendre le son de la fourchette, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est un interprétant. Et cet interprétant est absolument fondamental. C'est ça qui est entendu avant même d'entendre l'objet. On entend la crise de nerfs avant d'entendre l'objet. Sur quoi elle se pose, peu importe. Ce qui est important, c'est la crise de nerfs. Et donc, il y a là, dans l'écoute, une écoute qui n'est pas seulement une écoute des objets ou des espaces, mais qui est aussi une écoute des corps. J'entends dans le son qui m'arrive ton corps en train de produire ce son. Et ce que je reçois, c'est quelque chose qui touche mon corps à l'endroit où ce type de relation s'est déjà trouvé, a déjà existé en moi. C'est-à-dire que l'énervement, il domine le sens. Pourquoi tu t'énerves ? On demande. Et donc, il y a là quelque chose qui a à voir fondamentalement avec le toucher. Ta voix me touche. Il y a quelque chose dans la production des sons, il y a une part qui concerne mon corps avant même de concerner le sens. C'est la sensation. Travailler avec le sonore, c'est travailler la sensation avant de travailler le sens. Donc je ne vous dis pas l'emploi des sonothèques, comment c'est une erreur fondamentale de travailler avec des sonothèques. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Sur toute la gestuelle, c'est pour ça qu'on emploie des bruiteurs. Le bruiteur, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du corps dans le son. Ça, c'est une donnée fondamentale. Ce que j'entends dans les sons, c'est quelque chose qui a à voir avec mon corps. En tant qu'événements qui se produisent dans la nature, mais surtout en tant que relation aux autres. Donc construire le sonore du cinéma, c'est organiser les occurrences, c'est-à-dire les événements, la succession des événements, dans cette relation directe à nos affects et à notre pouvoir d'être affecté. Produire du son, c'est organiser un corps à corps. Bien évidemment, plus on va mettre de son, plus il va y avoir d'événements à vivre. Et on n'est pas des machines qui sommes capables de vivre des tonnes d'événements en même temps. D'où la nécessité de ne pas avoir trop d'événements. Et d'où la nécessité de permettre à celui qui entend de vivre en lui le prolongement de ce qu'il vient d'entendre. Et c'est nous qui allons fabriquer la suite. Et fabriquer une bande-son, c'est construire en même temps un dispositif qui va permettre à l'auditeur de prolonger tout ce que j'ai construit en lui. Lorsque j'entends, je produis en moi le souvenir de la fréquentation de cet objet. D'où la nécessité de décharger, évidemment, les bandes-son. Alors, d'une part, par le fait que les micros prennent trop de choses, donc il va falloir reconstruire les choses, dégraisser, comme disait Piala, retirer tout ce qui est en excès, refabriquer son par son les événements, et se dire qu'est-ce qui est nécessaire de sonoriser dans ce film. Combien de sons je dois mettre dans ce plan? Est-ce que je dois tout bruiter? Pas du tout, rien à foutre. Il y en a trop, il y en a toujours trop, mille fois trop. Alors, on a eu de la chance à une époque. Le cinéma était optique. On mixait avec des bandes optiques. Ça voulait dire qu'on n'avait que 6 ou 7 dérouleurs, donc 6 ou 7 sons en même temps. Donc vous voyez, déjà quand on a 2 pistes de voix pour les enchaînements, une piste de musique, etc., il ne reste plus grand-chose. Et donc on se soucie beaucoup plus de la disparition d'un événement qui a eu lieu et de la façon d'amener le suivant. Donc on ne garde pas des continuums, parce que notre écoute, naturellement, n'écoute pas des continuums. Nous n'écoutons jamais les continuums, je vous disais, on n'écoute que les régimes transitoires, que les surgissements ou les évanouissements. Donc, la chose importante, si vous voulez fabriquer du son au cinéma, c'est de retirer des choses plutôt qu'en rajouter. Or, on est actuellement avec des machines qui permettent d'avoir 250 pistes et de mixer 250 pistes. Et le nombre de films qui se mixent avec 250 pistes, c'est très fréquent. Il y a des gens qui travaillent autrement. Je pense à Alain Cavalier dans Liberamé. Il fait un son direct en mono et il rajoute aucun son après. Et il tourne en studio, donc il n'y a pas d'ambiance autour. Donc il décide quels seront les sons et strictement quels seront les sons qui seront entendus. Il cadre serré, donc il nous met dans la matière du son, dans la chair du son, à un endroit vraiment extrêmement rugueux du son, au plus près du toucher. Et à cet endroit, nous sommes dans une sensation très très, une excitation très grande. Donc il construit son film sans mixage. Ce film, c'est un film de fiction d'une heure et demie qui n'a pas de musique, qui n'a pas de dialogue, qui est un film sur l'enfermement et la privation de liberté, et où il n'y a que des sons. Je peux vous dire que c'est très fort. Et tout est fait en son direct. Il n'y a aucun son rajouté. Ce qui serait intéressant, c'est de commencer à fabriquer des films justement à partir de ça. Combien je mets de son sur cette séquence? Est-ce qu'il est nécessaire de développer des choses sur cette séquence et jusqu'où? Et je dis la même chose pour les musiques. Est-ce que tout le discours que développe la musique n'est pas de trop par rapport à tout ce qui est donné? Et sachez que plus il y a de son, moins on voit. Plus il y a de son, moins on entre dans l'image. Et moins il y a de son, plus on pénètre dans l'image. Et plus on complète. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une stratégie, d'une économie à organiser, d'une façon de gérer l'énergétique, on pourrait dire, du film. Le cinéma de jadis nous apprend des choses extraordinaires. Et je pense qu'il faut essayer de comprendre. Il ne s'agit pas de faire un retour comme ça vers la pauvreté. Mais il s'agit de comprendre comment on écoute et comment on regarde et de se dire que c'est à partir de ça qu'il faut organiser aussi l'économie de la construction. Et comprendre l'écoute, c'est finalement avoir des éléments qui vont nous permettre de penser la construction.